tous et à tous, nous sommes le 6 juin, il est déjà 14h et vous écoutez Radio Bellevue. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gaëlle. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Maëva.
Notre édition de la journée sera consacrée à l'engagement.
Voyons d'abord l'engagement des lycéens à travers un sondage effectué par Maëlle et Capucine dans les classes de seconde et terminale.
Maëlle, quels sont les enseignements de cette enquête ?
Bonjour à tous. Effectivement, nous avons enquêté. Est-ce que les jeunes s'engagent uniquement pour augmenter leurs chances d'accéder aux études supérieures ? Capucine, est-ce que Parcoursup dirige leur manière de s'investir dans leur vie de lycéen ?
En effet, Maëlle, un sondage a été envoyé à deux classes de seconde et une classe de terminale du lycée Bellevue à Albi, auxquelles les élèves ont répondu de manière anonyme. Avant même de prendre compte des résultats, soulignant que peu d'élèves ont répondu au questionnaire, 30% environ. Cela peut être un indice. Est-ce que ce sujet ne les intéresse pas ? Alors voyons les retours plus en détail.
Pour les secondes qui terminent leur première année au lycée, on sait que les efforts de l'établissement pour favoriser l'engagement des élèves au début de l'année dans le lycée, comme devenir éco-délégué, gérer la maison des lycéens, participer à des ateliers à la vie d'une association, leur ont permis de mieux prendre connaissance de toutes ces possibilités. 75% disent avoir appris des choses lors de cette journée de l'engagement, mais seulement 25% d'entre eux se sont engagés à la suite de cette journée. Ils disent le faire principalement pour aider et représenter les autres élèves. Et qu'en est-il des élèves de terminale, Capucine ?
Les élèves de terminale ne sont que 30% à penser qu'ils se sont suffisamment engagés dans la vie lycéenne en dehors des heures de cours. C'est généralement dans des ateliers, au CVL, conseil de vie lycéenne, mais aussi à l'extérieur du lycée, dans la vie associative. Pour les autres, il semble que ce soit par manque d'informations. Certains ont même proposé des solutions. Des affichages dans les lieux de circulation et de vie du lycée, le self, la MDL, les couloirs, une meilleure exploitation des réseaux sociaux comme Instagram pour une information plus rapide et plus captivante. Et nous avons posé une question dont on parle peu. Est-ce que les élèves qui s'engagent le font uniquement dans le but que cela apparaisse sur Parcoursup ?
Pourquoi poser cette question ?
Eh bien, parce que la plateforme qui gère les affectations dans le supérieur comporte une rubrique « Engagement citoyen » qui permet aux futurs étudiants de valoriser son dossier, gagner des points en quelque sorte, se démarquer des autres dans la course à la bonne formation.
Et 80% des élèves qui ont répondu au sondage pensent que oui. Les élèves s'engagent en terminale dans le but de l'inscrire dans Parcoursup. Alors, purement opportuniste, c'est bien sûr plus complexe que cela. Parcoursup est perçu comme anxiogène par la majorité des élèves.
D'ailleurs, dans le sondage, Parcoursup est sous le feu de la colère des lycéens. Beaucoup s'en plaignent. Comme le dit un élève de terminale, je cite ces mots, « Ils mettent les lycéens dans un état de stress et de compétition durant des mois, avec en plus un algorithme qui décide de leur avenir. » Mais donc, ces plaintes sont-elles écoutées ?
Les jeunes ont vraiment l'impression que leur voix reste ignorée. Ils ressentent le système comme inégalitaire. Certains lycéens seraient sur un piédestal en raison de toutes les appréciations visibles sur Parcoursup et les autres laissés dans l'ombre. Au fond, cette valorisation opportuniste de l'engagement sur Parcoursup dénature le plaisir de s'engager réellement. Ce n'est plus de la bonne volonté, c'est de la rentabilité.
L'institution est-elle consciente de ce malaise ? On peut en douter quand on voit que les principales décisions prises en ce moment évitent le sujet.
On peut clairement ressentir le poids de Parcoursup et son influence sur l'engagement des jeunes.
Justement Gaëlle, nous accueillons en direct un terminal engagé en dehors du lycée, sans lien avec Parcoursup.
La politique est devenue un engagement populaire chez les jeunes aujourd'hui. Alors merci d'être venu sur notre plateau. Paul, que vous avez rencontré précédemment, s'est décidé à vous poser quelques questions sur cet engagement particulier.
Bonjour Tom, bonjour Paul.
Bonjour.
Bonjour à tous. Oui, à deux jours des élections européennes, nous recevons Tom, 17 ans, en terminale au lycée Bellevue. Il est militant à LFI, la France Insoumise, depuis 2 ans et est co-responsable départemental des Jeunes Insoumis dans le Tarn. Il a milité l'an passé contre la retraite à 64 ans et lutte aujourd'hui par exemple contre la A69. Merci Tom pour votre présence.
Avec plaisir.
Concrètement, si près du scrutin, que faites-vous au sein du parti ? Organisez-vous des actions particulières, notamment pour inciter les jeunes à voter ?
Alors... Effectivement, on a pratiquement à la veille des élections européennes, on est particulièrement actif et c'est un impératif. C'est le cas par ailleurs de toutes les formations politiques. Je précise très rapidement qu'on n'est pas un parti, mais qu'on est un mouvement politique. Je le fais de manière très succincte, mais c'est pas un souci. C'est vrai que c'est assez peu connu. Je reviens sur le sujet. Alors effectivement, je peux prendre un exemple assez simple de ce que j'ai fait hier soir. Alors hier soir, j'ai fait d'une part un tour des panneaux d'affichage électoral, des panneaux officiels, pour donc vérifier que les affiches étaient bien collées sur le bon emplacement, bien collées par le prestataire chargé de le faire, pas décollées. Et après, j'ai fait un tour des panneaux aussi d'affichage libre pour afficher. D'autre part, on mène d'autres actions. ça peut être, c'est des actions qui sont très classiques. C'est du boîtage, c'est-à-dire distribuer des tracts dans des boîtes aux lettres, ou encore, et ça c'est surtout vrai à la France insoumise, du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on rentre dans les bâtiments, on toque aux portes, et on discute avec les gens pour les inciter, donc dans un premier temps et jusqu'au 30 mai, à s'inscrire sur les listes électorales, et ensuite à voter pour la liste portée par l'Union Populaire, qui est celle de Manon Aubry. On l'a fait, par exemple, dans l'ensemble des quartiers politiques de la ville, de la commune d'Albi, mais aussi dans l'ensemble de ces cités universitaires.
On se questionne aujourd'hui dans cette émission sur la notion d'engagement. Que signifie ce mot pour vous, engagement ?
Alors, engagement, c'est un mot qui est particulièrement vaste. C'est, disons, le fait de faire vivre par ses actions ce en quoi on croit, les valeurs qu'on souhaite porter. Et donc cet engagement, il peut prendre plein de formes. Il peut prendre une forme associative, syndicale, politique, dans des organisations et par des moyens qui permettent de s'exprimer comme on le souhaite, avec des outils et des manières d'engagement avec lesquels on est à l'aise, pour porter de la manière qu'on pense la plus efficace possible les valeurs et les convictions qu'on souhaite diffuser.
On entend souvent dire que les jeunes sont désengagés. Quel est votre point de vue ?
C'est vrai qu'on entend souvent dire que les jeunes se désengagent. C'est particulièrement faux. Et on le voit, et moi je le vois en tant que jeune militant, et je le constate. Je suis aussi donc responsable d'une organisation de jeunesse, et je le vois, on a des jeunes qui sont très demandeurs de cet engagement, qui sont très demandeurs d'une expression, d'un espace dans lequel ils peuvent faire vivre leurs idées. Mais ce qu'on voit, et en fait la différence avec ce que ça a pu être avant, c'est qu'aujourd'hui, du fait de plusieurs choses, de plusieurs dynamiques, on a des jeunes qui s'engagent de manière différente, et on a aussi des jeunes qui s'engagent plus individuellement et sur la base de leurs idées individuelles, de ce qu'ils veulent porter eux, et donc moins dans un collectif, et donc moins dans des structures partisanes par exemple. Mais oui, aujourd'hui les jeunes s'engagent, et ils s'engagent beaucoup, notamment dans le milieu associatif par exemple.
Merci d'avoir répondu à mon interview. Un témoignage important car il nous fait réespérer, nous fait recroire en la jeunesse, dont on dit souvent qu'elle est fainéante et procrastinatrice.
Merci à vous.
Un jeune homme assurément très engagé.
Figurez-vous, Maëva, que ce n'est pas le cas pour tout le monde.
C'est évident. Le lycée Bellevue a la chance d'avoir un service civique dirigé par Hugo Blin. Pourtant, celui-ci a rapporté à notre journaliste Mélodie les difficultés qu'il avait à capter l'attention des jeunes sur les nombreux projets qui sont possibles de mettre en place au sein de l'établissement.
En effet, on peut s'impliquer et s'engager dans la vie du lycée de bien des manières. J'ai rencontré Hugo Blin, service civique EDD. EDD signifie éducation au développement durable, au lycée Bellevue d'Albi. Concrètement, il monte des projets en dehors des heures de cours avec les élèves pour les sensibiliser au sujet de développement durable de l'établissement. Il est présent sur le lycée Bellevue depuis le mois d'octobre 2023. Avant cela, il suivait une licence de biologie-toxicologie. Son changement de voie temporaire s'est fait après sa troisième année de licence qui lui a paru intéressante mais dure. Un service civique lui semblait adapté à son besoin de changement, son envie de transmettre et lui permettait de garder un peu de biologie dans son travail. Les projets que mène Hugo permettent aux élèves qui ont tendance à seulement connaître leur environnement classe de faire de nouvelles rencontres entre élèves, mais aussi avec des professeurs ou agents d'entretien impliqués. Avec Hugo, ce sont les élèves qui organisent les projets et surtout qui proposent les idées. Et lui qui les aide à les mettre en œuvre. Comme projet cette année, ils ont mis en place les jardins partagés ou le concours d'éloquence. Je lui ai demandé s'il pensait que son rôle, ses actions, avaient l'impact escompté sur les élèves, s'il se saisissait bien de ses projets. Sa réponse était plutôt mitigée.
Alors ça marche pas tout le temps comme on aimerait. Bien sûr, je préférais avoir 50 élèves qui, dès que j'envoie « Bonjour, est-ce que vous êtes intéressé pour cette activité ?» me disent « Oui, carrément, c'est fou que tu nous la proposes. » Bon, ça n'arrive jamais malheureusement. Mais il y a toujours des élèves. Parfois, c'est quand même souvent les mêmes, il ne faut pas se mentir. C'est aussi souvent des filles, il ne faut pas se cacher. Et souvent les éco-délégués, je les remercie, qui participent et qui sont toujours là pour participer. Donc les projets marchent, Il ne marche pas toujours avec l'ampleur que j'aimerais, mais ça marche. Et dans tous les cas, même s'il n'y a que 2-3 personnes, le projet peut marcher. De deux, ça fait marcher le lien social parce que c'est souvent 2-3 personnes qui ne se connaissent pas, ils rencontrent le professeur, ils ont les aides des agents d'entretien. Donc, dans tous les cas, même si on fait un seul projet dans l'année, ce qui n'est pas arrivé, c'est toujours ça qui, c'est toujours ça de prix.
Malgré tout cela, il ne baisse pas les bras. Toucher quelques élèves, faire en sorte d'aider ces élèves à s'impliquer activement dans différents domaines est déjà bien satisfaisant. Il reste optimiste sur l'engagement à venir des lycéens.
L'engagement et les tensions qui entourent ce sujet touchent particulièrement les jeunes qui montrent un investissement assez fluctuant. Mais ne restons pas limités à cette échelle. Nos trois journalistes, Louise, Enora et Inès, se sont concentrés sur les problèmes liés au tourisme international.
On parle ici de volontourisme, mais qu'est-ce que c'est exactement, Louise ?
Bonjour. Oui, le volontourisme, qui est la contraction de volontariat et tourisme, est un mot qui a été inventé par le secteur touristique anglo-saxon. L'idée principale de cette activité est de proposer aux jeunes Européens de donner un peu de leur temps aux populations en besoin, qui sont souvent à l'autre bout du monde. Cependant, le problème est que le volontourisme répond à ce que les jeunes des pays riches ont envie de faire, mais pas aux vrais besoins. Le problème avec ces missions ? La durée du séjour qui est très courte, il n'y a pas d'objectif clairement défini, et surtout, pour participer, il n'y a aucune qualification demandée. Donc, une personne peut donner des cours de français sans pour autant avoir les qualifications pour le faire. Pour attirer les bénévoles, les agences peuvent même inventer des situations dramatiques, telles que faire la visite d'orphelinat avec des enfants qui ne le sont pas. En effet, certaines entreprises arrachent des enfants à leurs parents contre de l'argent. Pour vous faire une idée, 69% des enfants âgés entre 13 et 17 ans dans les orphelinats du Cambodge ont en réalité au moins un parent de vivant. Nous sommes tombés sur un témoignage sur les réseaux sociaux et Nora va vous en parler.
Il y a 3 ans, je suis partie faire un voyage humanitaire au Togo avec plein d'idées innocentes, de vouloir faire quelque chose de bien, de vouloir donner un sens à ma vie. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi. Sur place, j'ai pris connaissance de termes comme le volontourisme, comme le wayfarerisme. Et c'est des termes vraiment qu'il faut connaître aujourd'hui si vous voulez partir.
En effet, la vidéo sur laquelle nous sommes tombés est un témoignage, le témoignage d'une jeune femme nommée Anna Milanovic. Cette dernière est partie en 2021 avec une association pendant un mois au Togo. Elle explique avoir trouvé cette association sur Instagram et avoir été motivée par les retours des autres volontaires et des superbes photos qu'elle avait pu voir sur leur compte. Elle est partie et en a fait des vidéos qu'elle poste sur les réseaux sociaux, racontant ce qu'elle y faisait, combien elle avait payé pour y aller, etc. Et c'est grâce aux commentaires qu'elle a reçus sous ses photos qu'elle a pris conscience que son voyage, qu'elle pensait engagé et innocent, était en fait du volontourisme « white saverism ». Ce terme signifie qu'une personne blanche qui cherche à se mettre en valeur en soulageant la détresse des autres, souvent des personnes noires, et qui exerce des tâches qui pourraient très bien être faites par les locaux, dont ils les privent. Elle n'a pas voulu faire face à ces critiques tout de suite, comme elle le dit, je cite, « Je ne voulais pas voir la réalité en face. Je ne voulais pas voir qu'au lieu de faire un voyage humanitaire, j'aurais alimenté un système. » Qu'est-ce que nous pouvons en conclure, Inès ?
Nous pouvons donc en conclure que le volontourisme est en effet devenu omniprésent dans le domaine de l'humanitaire. En effet, nous venons de voir que les voyages humanitaires organisés sur la base du volontariat ont été peu à peu remplacés par l'industrie du volontourisme sans que les demandeurs de ce genre de voyage ne puissent le remarquer. Il est en effet difficile de prendre conscience de notre implication dans un système à l'opposé de nos valeurs et de constater que nous sommes nous-mêmes susceptibles d'y tomber sans nous en rendre pourtant compte. Pour éviter cela, nous devons nous informer sur les sites que nous visitons et sur les organisations dans lesquelles nous voulons nous investir, ainsi que boycotter les organisations qui manipulent les populations victimes de ce genre de phénomène.
En parlant de boycott, Matt est allé à la rencontre d'un membre d'une association opposée au projet de construction de bassins nordiques à Albi et à Saint-Jury.
Alors, que peut-on penser d'un bassin nordique à Albi ? Alors tout d'abord, un bassin nordique est une piscine extérieure chauffée qui présente l'avantage de ne pas nécessiter la construction d'un bâtiment annexe couvert. Mais cet investissement pose bien sûr une foule de questions économiques et écologiques. Est-ce une bonne utilisation des fonds publics que de dégeler une piscine en février, par exemple ? Ainsi, quand la mairie d'Albi a annoncé un projet semblable qui serait le plus grand investissement de son histoire, le collectif pour Albi, une association qui comprend des élus de l'opposition au conseil municipal, de gauche et écologiste, a lancé une pétition contre ce projet. Pour en savoir plus, nous avons rencontré M. Jean Bourdoncle, porte-parole du collectif, dans le local de l'association le 25 mai dernier. Nous avons commencé par lui demander de clarifier la position de l'association vis-à-vis de ce projet. Il s'avère que ses membres ne nient pas la nécessité d'un bassin, mais ils s'opposent aux méthodes utilisées par la mairie d'Albi et la communauté d'agglomération pour approuver sa construction. En effet, l'agglo n'a pas pris cette décision de façon démocratique d'après le collectif. Les habitants n'ont pas été consultés et la commune d'Albi n'a pas cherché à savoir si d'autres investissements seraient plus utiles. La pétition de 2021 contre ce projet a atteint son objectif, puisque 14 maires sur 16 ont demandé l'ajournement du projet en raison du manque d'informations et de transparence lors de sa présentation. Mais en 2023, le projet a été de nouveau présenté par la présidence de l'agglomération, avec quelques aménagements et il a été accepté. Deux bassins seront donc construits. Un bâtiment de 50 mètres à Atlantis et à Taranis, le bassin estival de 25 mètres sera transformé en bassin extérieur chauffé et les locaux techniques seront également agrandis. L'agglo assure que ce projet sera un plus pour les habitants avec davantage de créneaux disponibles pour les associations, le grand public et les scolaires grâce à une surface de nage plus importante. Le collectif pour Albi, lui, dénonce les procédés trop opaques par lesquels l'agglo a fait passer ce projet, son coût de 20 millions d'euros, et tout cela sans débat démocratique.
Justement, le coût de certains projets pose problème. C'est pourquoi Cécile et Alana vous emmènent au cœur d'une des plus vieilles associations du Tarn qui rencontre quelques problèmes d'approvisionnement et d'engagement.
Bonjour Cécile, bonjour Alana.
Bonjour Gaëlle, bonjour Maëva. Nous avons en effet enquêté sur l'organisation d'un engagement particulier, celui du don de denrées dans une association caritative, la Banque Alimentaire. Elle fête cette année son 40e anniversaire et celle du Tarn existe depuis 28 ans. Force est de constater que l'un des objectifs de la Banque Alimentaire est de lutter contre le gaspillage alimentaire encore bien trop présent aujourd'hui. Cet engagement est depuis quelques années difficile à tenir pour l'association et nous le verrons parmi les difficultés qu'elle rencontre, elle a de plus en plus de mal à répondre à la demande de ses associations membres qui redistribuent les produits. Quelles sont donc en détail ces difficultés et comment les expliquer ? Pour cela, nous avons rencontré Pierre Mauguen, ancien bénévole qui a commencé en 2010 et qui a arrêté il y a quelques mois, et Jacques Rénal, depuis 13 ans président de l'association au niveau du Tarn. Ils ont pu nous donner leur vision de ces difficultés. Tout d'abord, la Banque Alimentaire est une association qui ne distribue pas directement les produits aux bénéficiaires, mais à 29 associations locales qui sont aussi membres de la Banque Alimentaire. Tous les jours, la Banque Alimentaire organise une ramasse dans les grandes et moyennes surfaces. Les bénévoles récupèrent très tôt le matin les produits invendus. Ce sont ensuite les associations membres qui les redistribuent de manière directe. On connaît dans le Tarn l'épicerie sociale de l'Albigeois, le Secours Populaire ou encore les Restos du Cœur. Ce double système est d'ailleurs spécifique à la Banque Alimentaire, les autres associations s'y sont ensuite greffées. Mais encore faut-il faire la différence avec la collecte nationale qui a lieu une fois par an, le dernier week-end de novembre. Oui, c'est bien lors de cette collecte que nous sommes amenés à donner les produits alimentaires que nous achetons pendant nos courses. Tout de suite, un extrait de notre échange avec Pierre Mauguen pour mieux comprendre la spécificité de l'organisation, mais aussi du système de la ramasse qui s'est généralisé.
On va faire un peu de nombrilisme, je dirais. Les ramasses, c'est la Banque Alimentaire qui l'a initié et les autres après se greffent là-dessus, hein, que ce soit le Secours Pop ou les Restos du Cœur. Ça fait pas longtemps qu'ils font le ramasse. Okay. Parce que nous, la ramasse, ça fait plus de 30 ans qu'on l'a fait.
Oui,
avec
oui, oui.
Toujours le même. Mais depuis
40 ans, voilà. Ça fait 40 ans que les banques alimentaires existent cette année.
Voilà.
Et celle du temps, je crois, ça fait 22
ans. Les banques alimentaires existent avant les Restos du Cœur.
Un an avant.
Vous l'aurez compris, le fonctionnement d'une banque alimentaire est le produit d'une organisation bien précise. La Banque Alimentaire étant une association, elle est basée sur le principe de non-lucrativité et ne doit donc par définition retirer un quelconque bénéfice. Mais elle a quand même un objectif à atteindre, lutter contre le gaspillage.
Le problème principal, Cécile, c'est l'approvisionnement. Non pas parce qu'il n'y a plus de gaspillage, mais parce que les grandes et moyennes surfaces ne leur donnent plus ou presque plus de produits. Ce qui fait que les associations membres se retrouvent avec de moins en moins de produits à redistribuer à leurs bénéficiaires. Mais alors pourquoi ? Parce que l'association est concurrencée par le système des rayons de produits en date courte dans les grandes surfaces. Les grandes et moyennes surfaces partent du principe que le client qui vient acheter ses produits à prix bas vient en même temps acheter d'autres produits de la grande surface. C'est le concept des produits appel. Si le consommateur n'a pas l'impression de faire augmenter le prix de son caddie, les grandes surfaces, elles, font des bénéfices sur ces produits alors voués à la poubelle. Ce qui s'est également développé avec les plateformes Too Good To Go. En fait, au départ, tous ces produits étaient donnés à la banque alimentaire, mais aujourd'hui, c'est le consommateur qui achète au meilleur marché, au détriment des bénéficiaires des associations membres. Alors, ces dernières années, la banque alimentaire a dû s'adapter. Et pour cela, elle fait appel aux entreprises de l'agroalimentaire. Sous la forme d'une sorte d'appel à mécénat, des bénévoles de la banque alimentaire les sollicitent afin de les convaincre de leur donner des produits supplémentaires. Et cela vise à augmenter la quantité et la diversité des produits. En bref, la banque alimentaire fait partie d'associations qui sont confrontées à de nombreuses difficultés pour mettre en œuvre la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'accès aux denrées essentielles pour les plus modestes. Leur engagement se caractérise par une forme d'indépendance. Toutes les associations membres ont donc un système différent. Leur régime de distribution varie. Outre les difficultés évoquées autour de la concurrence avec les grandes surfaces, les bénévoles font face à des enjeux économiques et logistiques importants, mais qui n'entravent pas leur enthousiasme et leur engagement.
Nous avons vu à différentes échelles l'engagement et son importance pour nous tous, mais il est primordial de rester critique face à ce sujet.
Nous vous remercions d'avoir écouté Radio Bellevue. Très bonne journée à vous.